Alcide Carton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association Arbre, les Amis de Robespierre, une association historique. Hein. Vous organisez des rencontres, des conférences avec différents intervenants autour des réalités de la Révolution française. Vous vouliez, avant de parler du sujet qui nous anime, présenter à nouveau cette association et pourquoi vous êtes les Amis de Robespierre, c'est ça ?
Oui, merci de me poser cette question parce que elle est très importante pour ceux qui nous écoutent, quoi. Nous revendiquons le titre de Robespierre. Nous sommes d'abord une association d'éducation historique, d'historiens et d'éducation populaire. Et donc, nous sommes en cela des militants qui s'inspirent de la philosophie des Lumières et qui s'inspirent aussi de la connaissance historique de cette période fondatrice de notre nation et surtout de notre République, qu'est la Révolution française. Et donc pourquoi on revendique le titre d'être des amis de Robespierre ? En gros, pour trois raisons. La première, c'est que pendant deux siècles et demi, l'histoire de Robespierre nous s'est transmise par ses ennemis, c'est-à-dire par des révolutionnaires comme Tallien, comme Barras, et qu'on appellera plus tard des Thermidoriens, et ce que Pierre Serlemann aujourd'hui appelle l'extrême-centre. Ce sont eux qui ont associé le mot « terreur » au mot « Robespierre », parce que ce sont les premiers à avoir traité Robespierre de terroriste. Et que reprochait-il à Robespierre, et ce qui est intéressant, deux choses. D'abord que Robespierre était, contrairement à ce qu'ils ont construit, l'un des défenseurs acharnés depuis 1789, un défenseur acharné de la Déclaration des droits de l'homme. C'est un avocat, ne l'oublions pas, et un avocat des pauvres, comme le disait son confrère en 1787, Liborel. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Robespierre est quelqu'un qui est aussi très attaché aux valeurs de la République à laquelle il va contribuer à l'avènement. Et il va y contribuer de trois manières, de plusieurs manières, mais la première, qui est quand même un peu caractéristique, c'est que quand vous passez devant un lieu public, quel qu'il soit aujourd'hui, et que vous lisez la devise républicaine, liberté, égalité, associée à la fraternité, eh bien, cette association, nous la devons en 1790 à Robespierre. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que non seulement Robespierre était le défenseur des pauvres, mais surtout de l'égalité sociale et du droit à l'existence de chacun. Le droit d'exister. C'est-à-dire de vivre, de manger, de se cultiver et de vivre libre, en particulier contre l'esclavage et le servage monarchiste. Et donc Robespierre est aussi là-dessus, avec cela, le défenseur de la patrie. Car quand la France risque très fort d'être envahie par la coalition européenne qui veut renverser la toute jeune République, eh bien Robespierre va mettre toute son intelligence et toute son autorité populaire pour que les sans-culottes se lèvent en masse et empêchent l'ennemi d'envahir la France. Ce sont pour ces trois raisons. Et la dernière raison qui nous amène aussi, c'est que notre vocation est la vocation d'une association d'éducation populaire. On ne prétend pas forger les esprits des gens. On prétend leur apporter des outils conceptuels, des outils historiques, pour mieux s'insérer dans la vie d'aujourd'hui et mieux exercer leur rôle de citoyen. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Nous sommes, oui, délibérément une association militante dans ce sens, parce que nous voulons aussi rétablir la vérité historique. Et nous sommes aussi une association militante en ce sens, parce que nous défendons l'esprit des Lumières et nous défendons la République à laquelle nous sommes profondément attachés.
On vous a sollicité pour cette interview parce que Robespierre a fait irruption dans le débat politique pour ces élections municipales dans l'Arrajois, puisque donc là, donc si on fait référence au programme de la liste Le Bon Sens à Arras, donc qui est soutenu par le Rassemblement National et l'UDR aussi, donc mené par Alban Euzel, donc on lit la page 11 et aux surprises. Au sein de l'actuelle maison Robespierre, qui deviendra un lieu hommage aux victimes de la terreur à Arras, un espace accueillera d'autres personnages historiques nés ou ayant vécu à Arras à la même époque. Parmi ces enfants d'Arras, nous pouvons citer Alexandre Gonce de Rougeville, immortalisé par le célèbre écrivain Alexandre Dumas, sous le nom de chevalier de Maison Rouge. Et concernant les enfants d'Arras, nous pensons aussi aux anonymes qui ont participé à la vie locale et au rayonnement de notre cité. Cela méritera bien sûr un travail d'historien pour retrouver et mettre à l'honneur ces Arrajois. Ayant vécu sous la terreur, nous pourrons travailler à partir des noms de tous les malheureux guillotinés sur la place du théâtre. Fin de citation. Donc, on rappelle, ça c'est un gros paragraphe hein, quand même dans un programme pour les municipales à Arras. La liste Le Bon Sens à Arras, soutenue par le Rassemblement National. Il y a plusieurs choses à Alcide de Carton. On va commencer par le commencement. C'est cette maison Robespierre. Cette maison Robespierre dont vous soutenez le projet depuis de nombreuses années. Ce qui est proposé, c'est complètement autre chose.
Bien, deux mots d'abord pour dire que ce n'est pas notre vocation d'intervenir dans le débat politique. Mais là, en fonction du contenu de ce programme, nous ne pouvons pas rester insensibles à la manière dont un parti intervient dans le débat et met dans le débat la figure de Robespierre et la nécessaire existence d'un musée à Arras réclamé par plus de 7000 personnes en 2016, parmi lesquelles figuraient des prix Nobel, des ministres et des intellectuels de nombreux pays. Alors évidemment, ça ne peut pas nous laisser insensibles. Le fait de lire dans un programme du Front National que finalement le musée Robespierre disparaît, après 40 années de travail, de conviction auprès des édiles et auprès de la population, pour montrer tout l'intérêt qu'il y a d'un point de vue historique à parler de ce personnage, fut-il controversé, on ne peut que s'étonner de la manière dont ces gens-là voient les choses. Ça, c'est ma première réponse. Après, si vous le voulez, je veux bien parler.
Sur la terreur, peut-être. Donc, en fait, ce qui est présenté, c'est finalement, au lieu de mettre en avant Robespierre, mettons en avant les victimes de la terreur. Donc, dans le sous-texte, c'est-à-dire Robespierre est l'auteur de cette politique de terreur.
Alors, on peut remercier le Front National de reprendre la parole de Tallien le 25 août 1794, c'est-à-dire un mois et demi après le coup d'État réussi contre Robespierre par ces gens-là. Ça, c'est curieux, quand même. Et c'est à ce moment-là que Tallien, dans une découverte politique extraordinaire, s'approche de la Convention, fait un discours devant la Convention, qui est toujours existante, et dit « Nous vivons des heures difficiles, il y a un seul responsable de la terreur, c'est Robespierre. Et nous avons réussi à chasser le tyran. » Avant le 25 août, la question de la terreur n'est jamais posée. Et quand vous interrogez un historien aussi brillant et connu de la population pour ses travaux sur la guerre de Vendée en particulier, et cet historien, Jean-Clément Martin, n'appartient pas d'ailleurs à notre association, c'est un collaborateur qui travaille pour nous, un ami. Jean-Clément Martin intitule son ouvrage « Écho de la terreur » avec comme sous-titre « 200 ans d'un mensonge d'État ». Donc on ne peut que remercier, n'est-ce pas, le Front National de reprendre le mensonge d'État inventé il y a 2 siècles et demi. Mais pour être tout à fait vrai, dans le musée Robespierre, dont il est question et que la mairie a accepté de développer et d'inaugurer dans les prochaines années, nous n'avons aucun problème pour parler des 300 guillotinés de la ville d'Arras. Mais nous sommes allés un peu plus loin que les émules de la droite locale et de l'extrême droite locale, que de recopier les écrits d'un historien monarchiste en 1859 sur les crimes de Le Bon. Nous ne contestons pas les crimes de Le Bon. Ce que nous contestons, c'est la manière dont cet historien de 1859, et dont il est fait référence dans ce programme, n'est-ce pas, monarchiste, je le rappelle, pour ceux qui ne me croiraient pas, il suffit d'aller à la BNF, de taper Le Bon, et vous allez trouver l'ouvrage, et de nous expliquer que toutes ces victimes étaient des victimes innocentes dans un pays en guerre, je le rappelle, où l'ennemi est à 50 km de la ville d'Arras, à quelques kilomètres du Nord-Pas-de-Calais et des frontières de l'époque, et que la bataille de Jemmapes en 1793 a fait 7 000 morts parmi les sans-culottes et 5 000 morts parmi les Autrichiens. Elle fut gagnée d'ailleurs par les sans-culottes. Et vous n'imaginez pas que dans une ville comme Arras, qui est une ville de garnison où se trouvent des soldats, il n'y ait pas eu quand même quelques espions émigrés à la solde de l'étranger pour venir lutter contre la Révolution. Je n'ai pas dit que je justifiais les guillotines. Je dis simplement que la terreur exprimée à Arras, dont on rend Robespierre responsable, alors qu'en 1794 il fait revenir Le Bon à cause de ses exactions, c'est une erreur historique. Tout comme c'est une erreur historique de ne ranger ces 300 et quelques guillotinés en dehors du contexte de violence existant à l'époque, c'est-à-dire entre 93 et 94. C'est ce que je voulais ajouter là-dessus. Donc vous voyez, la terreur, alors évidemment, je les vois venir, je ne vais pas vous faire une leçon d'histoire, mais quand même, excusez-moi, il y a un seul discours de Robespierre qui date de 1793, fin 1793, et qui s'appelle discours sur l'organisation du gouvernement révolutionnaire. Mais vous avez entendu comme moi, je n'ai pas dit du gouvernement républicain. Il s'agit bien d'un discours sur leur gouvernement révolutionnaire, c'est-à-dire sur le gouvernement qui doit régler les problèmes en temps de guerre. Nous sommes bien d'accord. Et Robespierre emploie le mot « terreur », oui, mais pas du tout dans le sens où va l'utiliser Tallien. Il utilise le mot « terreur » pour l'opposer à la vertu, pour que l'équilibre entre la terreur et la vertu permette de résoudre la question de la justice. C'est-à-dire à la fois une justice implacable pour les ennemis de la Révolution, c'est-à-dire de la France, et une vertu dans le respect des règles juridiques. Que la Révolution ait un peu dérapé vers avril 1794, personne ne le conteste, aucun historien ne le conteste. Mais si on le remet dans l'époque, qu'on repose les questions à plat, et qu'on essaye de traduire aussi un petit peu ça, comment les choses se sont passées, en particulier pendant la guerre de 14 et pendant la guerre d'Algérie, les gouvernements successifs en état de guerre n'ont pas hésité à utiliser soit le poteau d'exécution, soit la guillotine.
On revient au programme du Rassemblement national à Arras. Il est fait référence donc à cette figure, cet enfant d'Arras que le RN souhaite remettre au goût du jour, Alexandre Gonce de Rougeville. Alors, qui était ce monsieur Alcide Carton ?
Alors c'est un noble, fils de noble, né à Saint-Laurent, d'une famille relativement aisée d'ailleurs, plutôt très aisée, qui n'a rien à voir avec le roman d'Alexandre Dumas, construit à la romantique, quoi. Bon, que je conseille aux gens parce que ça se lit avec plaisir. Cette histoire de chevalier, très chevalier, chevaleresque, oserais-je dire, qui tout à coup prend tous les risques du monde pour sauver sa reine. C'est magnifique, franchement. Bon, le problème c'est que la réalité est tout autre et parfois même elle dépasse la fiction. L'auteur historien Michel Benoît, qui vient de publier un excellent ouvrage qui s'appelle « Les enfants de la liberté », consacre une nouvelle à de Rougerie. Qu'est-ce qu'il nous dit en gros ? Il nous dit trois choses. Il nous dit « Ce type est un mythomane, un escroc, et non seulement c'est un mythomane et un escroc, un flambeur, Et qui plus est, dit-il, un type plutôt lamentable qui n'hésitera pas à trahir, y compris Bonaparte, et à servir d'espion aux troupes autrichiennes et russes pendant la campagne de France en 1814, et il sera fusillé pour cela. A-t-il vraiment cherché à sauver la reine ? Oui, incontestablement, on a quelques sources. Mais les sources nous montrent aussi qu'il y avait derrière une grosse histoire d'argent. Une grosse histoire d'argent dans laquelle il a pu puiser personnellement. Alors, pourquoi c'est un escroc ? Parce qu'il a inventé des preuves qu'il avait suivi Lafayette pendant l'expédition américaine, la guerre d'indépendance. Le problème, c'est qu'il n'a jamais suivi Lafayette et que les pièces qu'il a pu fournir sont tout à fait fausses, n'existent pas. Pourquoi c'est un mythomane ? Parce qu'à partir de là, dans la noblesse, avant la Révolution, notre gaillard est allé faire tout un récit épique du dévouement à la cause de Lafayette pendant la libération et la guerre d'indépendance américaine. Que cherche-t-il ? De l'argent et de la notoriété ? Ça, c'est clair. Et il prétend en particulier avoir déjà été présent lors de l'invasion des Tuileries le 20 juin 1992. Mais le problème, c'est que pareil, c'est que toutes les enquêtes de police qui ont été menées à cette époque-là, on trouve trace nulle part de notre... voilà. Ce qu'on constate, c'est qu'il a vidé les caisses de la maison et s'est retrouvé sans argent, quoi. C'est le côté flambeur. Et le dernier côté, quoi, et je termine par là, quoi, parce que c'est ça qui me... la tentative d'invasion de Marie-Antoinette est organisée de manière, enfin d'après les sources, c'est tout ce que nous avons pour recueillir, de manière non pas romanesque, mais plutôt lamentable. Cela dit, moi ce qui m'étonne là-dedans, c'est que le Front National puisse faire l'apologie d'un conspirateur contre la République et que on puisse valoriser un conspirateur monarchiste dans notre... s'il fallait démontrer sur ce petit exemple que le Front National, contrairement à ce qu'il prétend, a des vrais problèmes avec la République. Voilà comment je voulais dire là-dessus. Quand on prétend mettre dans un musée, dans une maison à Arras, non pas la figure d'un grand homme d'État, fut-il controversé, mais celui d'un comploteur, d'un conspirateur, mythomane et escroc, ça me pose véritablement des problèmes de morale politique et aussi des morales d'historiens sérieux.
Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, ça nous dit que y a des monarchistes dans les tendances qui sont dans le Rassemblement National à Arras.
Ah, moi, je ne prétends pas ça. Je lis, comme vous, son programme. Et je me dis que le Rassemblement National et M. Hezel, qui conduit la liste, puissent trouver comme personnage à mettre en valeur dans la maison de Robespierre un monarchiste, escroc, mythomane et conspirateur, ça me pose quelques problèmes en tant que citoyen et ça me pose des problèmes en tant qu'historien. J'ajouterais que dans le futur musée qui est prévu, il suffit d'aller vérifier sur les panneaux qui sont dans la maison Robespierre, il y aura une fiche historique consacrée au personnage, grosso modo avec la réalité historique dont je viens de vous dépeindre un petit pan. Et que ça n'a choqué ni l'arbre, ni les historiens qui étaient à l'inauguration du musée en 2023, ça n'a pas choqué personne, au contraire. Parce que nous considérons, nous, que les gens qui vont visiter l'espace muséal Robespierre sont en droit de savoir qui étaient les contemporains de Robespierre. Nous avons de la chance, cher ami, qu'ils ne nous aient pas mis dans leur programme l'apologie d'un autre Lascar peu recommandable de la Révolution, l'auteur des premiers mémoires de Robespierre, l'abbé Proyard, qui fut chassé de Louis le Grand pour être envoyé au Puy à la suite d'un suicide d'un de ses étudiants dans le collège Louis le Grand. Et mes sources sont des sources trouvées dans les sites de l'extrême droite, c'est-à-dire de l'extrême droite vendéenne. J'ai tout lieu, quand même, de les prendre au sérieux. Donc on a, vous voyez, on a de la chance. On a oublié de nous mettre à côté du conspirateur, un abbé qui était plutôt l'apologue de la violence pédagogique.
Assis de carton, merci. Peut-être un mot dernier sur la prochaine conférence proposée par les amis de Robespierre.
Oui, merci beaucoup. Je sais que vous, très souvent, vous relayez nos conférences. Nous en avons 10 par an. Et la prochaine, je vous la recommande. D'abord parce que c'est le travail d'un jeune thésard et qu'il faut encourager la recherche historique. Et ce jeune thésard va nous parler de quelque chose qui est à l'opposé de ce que nous venons de débattre. C'est la question des dons patriotiques, c'est-à-dire comment le peuple de France a pris le parti de défendre la belle révolution à laquelle a participé Robespierre et de nombreux révolutionnaires, dont je pourrais ici faire une liste non exhaustive. Et donc il va nous parler de cela, c'est-à-dire comment les gens, les petites gens, les paysans, les paysannes, les femmes, apportaient parfois leurs bijoux en guise de don pour défendre la toute jeune République et pour défendre la Révolution dès les années 90. Alors je vous la recommande, c'est jeudi 12 mars à 18h30, ici en bas, dans la salle Marcel Roger de l'espace Saint-Éloi, place du Rivage.